Déjà un mois que nous ne l'avons pas entendu nous parler de ces petites bêtes qui vivent autour de chez nous. Jean-Joseph Desmottiers, animateur bénévole au sein de la Ligue pour la protection des oiseaux de la Sarthe, est parmi nous. Bonjour Jean-Joseph.
Bonjour Marissa.
De qui allons-nous parler aujourd'hui ?
Alors, nous allons parler d'un animal qui n'est répandu que dans l'hémisphère nord. Oui, je sais, il n'aime pas le sud. Donc, en fait, le renard.
Ah oui, le goupil.
Oh là là, c'est la pète. Oui, non, mais ça, c'est ce qui se disait au Moyen-Âge. Mais bon, on a évolué depuis. En fait, maintenant, on l'appelle le renard. À l'époque, vous avez tous entendu parler du roman de renard. Et ça s'écrit avec un T à l'époque. On a gardé le nom de renard, mais le terme de goupil, c'est juste pour les intervieweuses et puis les poètes.
Tout le monde le connaît, rien que par les fables de La Fontaine. Et si vous nous rappeliez ses caractéristiques ?
Oui, alors, il fait partie de la famille des canidés. Les canidés, c'est la famille du chien, enfin tout ce qui ressemble à un chien. Donc, c'est un petit chien. Il est tout petit. Hein, on le voit toujours sur les photos énormes, mais en fait, non. Puis bon, écouter des discours, c'est un truc féroce. Non, en fait, il fait pas plus de 35-40 cm au garrot. Garrot, c'est l'épaule, hein. Donc c'est pas énorme. Il fait entre 60 et 90 cm de corps, et on en rajoute autant pour la queue. Il est très touffu. Et puis la couleur, alors là, c'est simple. Il est tout roux, avec tout blanc. Dessous, tout blanc.
Alors justement, on peut le rencontrer où, ce petit canidé ?
Alors, on peut le rencontrer partout, des bords de mer jusqu'à une certaine altitude, enfin disons jusqu'aux prairies alpines. Il n'aime pas tout ce qu'il n'aime pas, la neige et tout ça, c'est pas sa tasse de thé. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne vit uniquement que dans l'hémisphère nord, officiellement. Sauf que il y a une petite histoire, c'est « Oh oui, mais on en trouve aussi en Australie ». Oui, mais ça, c'est encore l'être humain qui a fait encore de ses bêtises comme il a le secret. Donc, en Australie, il y en a qui se sont dit « Oh tiens, si tout désert et tout ça, il y a trois kangourous qui se battent en duel et tout ça, si qu'on ramenait des espèces rigolotes ». Et ils nous ont ramené du lapin. Donc évidemment, le lapin, comme c'est bien connu, il s'est reproduit comme un malade. Il n'y avait personne en Australie. Il y a de l'herbe et tout. En quelques temps, mais c'est impressionnant. Ça fait partie des records de multiplication de population. Mais c'était des millions de lapins. Hein. Donc, ils se sont dit un jour, oh oui, ça serait une bonne idée. Parce que c'est bien que le lapin, il mange de l'herbe. Mais le kangourou aussi, il mange de l'herbe. Et puis, le kangourou, c'est quand même une espèce locale. Si on limitait un peu les lapins. Donc, bah, qu'est-ce qu'on va faire ? On ramène On va ramener
du renard.
Bah, sauf que le renard, lui, le lapin, il court trop vite. Donc, il est dans les terriers, tout ça. C'est pas trop son truc non plus. Il s'est dit, il y a des espèces locales qui connaissent pas le renard, qui n'ont pas la peur du renard, et puis qui se sont mis à boulotter un peu les espèces locales, qui ont commencé à disparaître aussi.
Alors justement, il va pas courir après nos petits lapins, ce petit renard. Il va manger quoi, du coup ?
Alors, il est assez éclectique. C'est-à-dire qu'il mange un peu de tout. Principalement, alors, des fruits. Quand on va regarder des crottes de renard et tout ça, on va retrouver des noyaux de cerises. On s'est dit, bon, pour un carnivore, c'est des noyaux de cerises. Non, non, ça ne le dérange pas. En été, il adore les fruits. Mais, et puis, bon, il mange quand même de la viande. Pour la proportion de campagnols, vous savez, c'est des grosses souris qui vivent dans les blés et tout ça, dans les pâtures. C'est 80% de sa nourriture, hein. Mais il est assez opportuniste quand même. Il va manger du campagnol, mais s'il n'y a plus de campagnol, il va manger du ver de terre. S'il peut trouver un oiseau au nid, qui niche au sol, ça ne va pas le déranger. Enfin, disons, il mange ce qu'il peut, mais beaucoup, énormément de campagnol.
Alors ça, c'est donc plutôt l'été. L'hiver, il va manger quoi, du coup ?
Ah, l'hiver, c'est autre chose. Alors, l'hiver, il continue à manger du campagnol. Ça, c'est vous avez dû voir ça à la télé. Quand on appelle ça, il mulotte. En fait, c'est sa méthode de chasse, c'est d'écouter, principalement. Au départ, il écoute, il entend un campagnol, parce que le campagnol, il est un petit peu bébête, et quand il marche comme ça, il fait des tout petits cris. Et puis, quand il marche aussi, il a une autre caractéristique, il fait des petits pipis par-ci, par-là. Oui, et puis... Et le renard voit l'ultraviolet. Et ces traces d'urine sont visibles aussi. Mais sous la neige, le campagnol, lui, vit sous la neige.
D'accord. Ouais,
voilà, ça lui fait des petits tunnels en dessous, il est très content. Donc, là, il le repère au bruit. Alors, vous voyez le renard qui est, il a l'air de regarder, mais en fait, il oriente les oreilles pour savoir de où vient le bruit exactement. Mais à 5 cm près, il est capable de dire où. Il prend son élan, il plie les jambes, lui, parce qu'il n'a pas été opéré du bénisque et tout ça.
Ça c'est très moche.
Un personnage.
C'est très moche, je vous
en personnage joke. Donc, il saute en l'air, mais à 1m50, 2m de haut, et replonge dans la neige. La tête la première. Donc on voit souvent des renards plantés comme ça, avec les fesses en l'air et puis en train de gigoter. Et très souvent, une fois sur 5 à peu près, il arrive à attraper le campagnol. Comme ça. Voilà, ça c'était en hiver et en campagne. Et puis bon, il y a la solution de facilité. Je vous ai dit qu'il est opportuniste, donc il y a la solution de facilité. C'est que les êtres humains ont tendance à vivre agglomérés dans des villes et des villes. Et puis bon, dans les villes, l'être humain, il laisse quelques déchets comme ça, qu'on appelle des poubelles. Et dans des poubelles, il y a plein de choses bonnes à manger encore. Peut-être pas pour les humains, mais pour le renard, ça ne le dérange pas, lui. Et donc, ça ne le dérange pas de faire des poubelles et puis de se servir dans les poubelles. Autre chose aussi, qui est drôlement bien, c'est quand dans les villes, il n'y a pas de chasseurs. Donc, on ne risque pas de se prendre un coup de 12 au coin de la rue.
Alors, justement, on parlera de ces prédateurs tout à l'heure. Pour l'heure, si on parlait de la reproduction.
Ah, ça, tout de suite. Donc, le renard, c'est un solitaire, aussi bien mâle que femelle. Alors, en dehors de la période de reproduction, c'est chacun dans son coin. On fait chambre à part, lit à part, chambre à part et tout. Y a pas... Donc, ça leur prend tout début d'année, en février, janvier-février, bon, il y en a qui se disent, bon, ça serait peut-être une bonne idée qu'on se reproduise un peu. Donc, ils délimitent vraiment leur territoire. Le principe de délimitation de la territoire, c'est de se faire une réserve de nourriture, de faire comprendre à une femelle que moi, je suis un super kéké et j'arrive à voir tel territoire, j'arrive à défendre tel territoire, il y a à manger dessus. Et puis, bon, si tu pouvais t'arrêter, ce serait une bonne idée qu'on fasse des choses ensemble. Et de dire aux autres mâles, attention, moi je suis là, et donc ça serait peut-être pas une bonne idée que tu viennes chez moi. Donc pour eux, ils vont mettre des petites pancartes tout autour de leur terrain. Les petites pancartes, ça va être des crottes que vous repérez. Alors elles sont très repérables, hein, les crottes. C'est toujours sur un caillou, bien en évidence et tout ça. Ça c'est sa façon de marquer, et beaucoup plus discret aussi. Ils font des petits pipis un peu partout, mais là, c'est plus à l'odeur que ça. Bon, oui, on parle de la reproduction, donc ça serait une bonne idée qu'on continue. Donc là, la femelle se balade, elle va renifler toutes les crottes sur les cailloux, les buissons aussi, parce qu'au fond, il fait des petites pissouilles sur les buissons, etc. Et la femelle, hop, devient féconde. Elle se dit, oh, tiens, ça serait une bonne idée qu'on aille voir, voilà. Et donc, comme ils ont vu faire ça en ville... Ben, ils font exactement comme les chiens, ils restent collés comme les chiens. C'est, voilà. Ils restent collés, le problème c'est que c'est là où c'est le plus dangereux pour eux. En fait.
Ah si, ils sont plus vulnérables.
Voilà.
Alors justement, on a parlé de cette reproduction, je vous propose de faire une petite page de pause et on parlera justement de ce qui se passe après la reproduction, les jeunes. On se retrouve dans quelques instants donc, nous sommes toujours avec Jean-Joseph Desmautiers de la Ligue pour la protection des oiseaux. À tout de suite.
bébé. As-tu bien dormi? Sais-tu mon bébé? Oh, j'ai rêvé cette nuit d'un dromadaire tout vert dans le désert qui me paraît en sirotant un verre. Ah bon, ah bon, ah bon, ah bon, ah bon, ok. Sais-tu mon bébé? Oh, j'ai rêvé cette nuit. Je me souviens d'une bande de martiens qui dansent le rigodon sur mon polochon. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Ah bon? Ah bon? Oh yeah! Bichon!
Vos intermittences du soir, nous sommes comme tous les mois avec Jean-Joseph Desmottiers, animateur bénévole au sein de la Ligue pour la protection des oiseaux de la Sarthe. Il est avec nous comme à chaque fois pour nous parler des petites bêtes qui nous entourent. Ce mois-ci, nous parlons du renard. Alors justement, ce goupil, comme il était appelé autrefois, on parlait justement de ses caractéristiques, de ce qu'il mangeait, de sa reproduction juste avant de se quitter. Justement, en parlant de reproduction, on va parler des petits, des jeunes. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Jean-Joseph?
Tout à l'heure, on était resté sur cet accouplé avec un mâle. Mais bon, quitte à faire jouer la concurrence, ben, va essayer avec plusieurs. Bon, les mœurs sont un peu dissolues chez les renards. Donc, elle essaye et puis c'est la femelle qui choisit le mâle avec qui elle élèvera les jeunes. Et puis, oh, là, ça serait une bonne idée d'avoir une petite maison. Donc, le renard aussi. Le renard, il vit dans un terrier. Oui, mais alors il est fainéant comme c'est pas possible. Alors au lieu de creuser lui-même son terrier, ben, il va reprendre un terrier d'un autre. Il y a le blaireau qui est à peu près de la taille identique par chez nous. En montagne, ce serait plutôt un terrier de marmotte. Vous voyez, à peu près le volume. La femelle continue à vivre sa vie et au bout d'une cinquantaine de jours, ouais, elle va mettre bas. C'est tout petit. Elle va nous en faire 4 à 6, ça dépend de la nourriture qu'il y a sur place. Quand il y en a vraiment beaucoup, ça peut aller beaucoup plus. Hein. Enfin, disons 4-6, c'est la moyenne. Le minimum, c'est 1. Et puis, quand il y a vraiment du campagnol, on n'a plus savoir qu'en faire. Ça peut monter jusqu'à 12. En fait, c'est très variable en fonction de la nourriture et des pullulations des autres animaux. Donc, les jeunes naissent. Alors, ce sont des vrais légumes. Ils sont tout nus, tout roses, aveugles, sourds. Enfin bon, disons, ils n'ont vraiment rien pour eux. Ils savent tout juste téter. C'est tout ce qu'ils sont capables de faire. Mais au bout de quelques semaines, 3 semaines à peu près, bon, ils commencent à prendre de l'assurance. Il y a du poil qui leur a poussé, les yeux sont ouverts, etc. Et ils commencent à sortir du terrier. C'est là où ils sont le plus visibles, parce qu'ils sont complètement innocents. Alors donc, si vous vous baladez dans la campagne et vous repérez un terrier de renard, il y aura toujours, et à cette période-là, dans le printemps, vous risquez de voir des jeunes qui sont complètement tranquilles. Voilà, donc ils sont tellement inconscients que, justement, durant cette période-là, c'est à peu près 80% des jeunes qui disparaissent. Ils traversent sans regarder ils traversent la route sans regarder, ils se font attraper par une buse ou un truc, une autre bestiole comme ça, ou un renard qui. Pas un renard, mais un chien qui passe ou autre. Ils servent de nourriture. Voilà.
D'accord. Alors justement, on va en parler des prédateurs. On parlait de notre ami à deux pattes avec le 12. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme prédateur pour ce renard ?
Principalement la voiture. Oui. Et puis l'homme, mais indirectement. Parce que vous savez, le renard mange principalement des campagnols. Des campagnols, les champs sont arrosés d'herbicides, de... Alors l'herbicide, il ne tue pas le campagnol lui-même ou un petit peu, mais le problème, c'est qu'il va s'accumuler dans le corps du campagnol. Et donc, et il va se concentrer dans le campagnol. Le renard, lui, mangeant du campagnol, son organisme n'est pas prévu pour éliminer ses pesticides, ses substances toxiques. Donc, il va reconcentrer aussi, et puis, en fait, il va s'empoisonner par le fait de manger. Tout comme l'homme, hein, rassurez-vous, il n'y a pas que le renard qui s'empoisonne, le blé qui est empoisonné. Les êtres humains sont aussi remplis de ces cochonneries-là. Bon, après, il y a d'autres prédateurs aussi, mais qui sont, comme c'était des concurrents de l'homme, donc ils ont été éliminés joyeusement pendant des siècles, c'est-à-dire le lynx. Bon, il en reste encore quelques-uns dans les Pyrénées, dans le Jura. Non, Pyrénées, Pyrénées, c'est de lynx ibérique. Dans le Jura et dans les Vosges, ça, on a encore du lynx. Il y a l'aigle royal en montagne, le grand-duc toujours en moyenne montagne. C'est principalement du chien errant et du chat redevenu sauvage, dit le chat arrêt.
Justement, on va parler des idées reçues qu'on peut avoir sur ce renard qui est souvent dit comme porteur de nombreuses maladies et notamment qu'il véhiculerait la rage. Qu'en est-il vraiment ?
Ah oui, le véhicule, la rage. Mais bon, comme tout animal a sang chaud. Alors, dès que vous avez une bestiole avec du sang chaud, elle peut véhiculer la rage. Donc, ça sera aussi bien du renard, du blaireau. Ça, bien sûr, ça, c'est l'excuse des chasseurs. Mais bon, c'est l'être humain. Ça peut être la souris. Ça peut être le petit minou de la grand-mère à côté. Non, tout ce qui est animal à sang chaud peut véhiculer la rage. Donc, mais c'est pas pour ça qu'on va massacrer tous les chats et les chiens du voisinage, parce qu'il risque d'y avoir la rage. Parlons-en de la rage aussi. Parce que, la rage a disparu de France. Mmh. Depuis 1924, il n'y a eu aucun cas de rage qui a été attrapé en France. Depuis 1924, ça va faire 100 ans, mais on continue à les massacrer joyeusement. Hein. Donc, les seuls cas de rage qu'il y a eu, ce sont des animaux importés frauduleusement, principalement d'Afrique du Nord. C'était des chiens et des chats qui n'étaient pas vaccinés et qui ont transmis la rage et qui ont mordu. Mais d'origine de France, il n'y en a plus aucun. 100 ans. Mais bon, on continue à zigouiller tout ça.
Mais pourquoi on a choisi le renard particulièrement ? Pourquoi on s'est dit c'est lui et lui seul qui véhicule cette rage ?
C'était tellement simple. Enfin, disons, c'est le concurrent des chasseurs. Parce que dans la tête du chasseur, le seul qui mange des lapins, des faisans qui sont d'élevage, des perdrix d'élevage, c'est le renard. Donc c'est une façon, je ne dis pas intelligente, loin de là, d'éliminer un concurrent. Bon, mais le... Alors...
Ça tombait bien, quoi.
Surtout que ça n'a servi strictement à rien. La seule façon de se débarrasser de la rage, ça a été la vaccination préventive. Donc, ça donnait des résultats. Le fait de massacrer, ça sert à rien. Vu que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les renards sont capables de faire jusqu'à une dizaine de jeunes au maximum. Si on zigouille tous les renards, bon, la nourriture se trouve, il y a d'autant plus de nourriture disponible. Donc, les femelles font plus de jeunes, il y a la niche écologique qui s'ouvre et refont des jeunes.
D'autant plus qu'en Allemagne, ils avaient déjà fait ce schéma et que ça n'avait pas fonctionné en plus.
Ben oui, mais bon, si on suivait les exemples, ça se saurait, ma bonne dame. Par contre, il y a un autre truc aussi, c'est que, en fait, le renard mange des campagnols ou des petites bestioles comme ça, qui sont porteuses de tiques.
D'accord.
Et oui, vous savez, la tique transmet la maladie...
De Lyme.
Oh, elle a suivi les... Très bien.
On aurait bien fait une émission dessus, dis donc.
Oui, alors. Donc, la maladie de Lyme, et en fait, le fait de supprimer ces porteurs... Enfin, ces porteurs de puces et de maladie de Lyme, mais on diminue pour d'autant la maladie de Lyme qui, en ce moment, est en train de se répandre en France à la vitesse grand V. Et il n'y a toujours pas de détection fiable. Ça, c'est pas encore top. C'est pas, vous pouvez faire toutes les prises de sang, mais la maladie de Lyme se balade dans les neurones, dans les nerfs.
Une recherche spécifique.
Voilà, c'est spécifique. Il n'y a qu'un seul laboratoire qui fait la recherche. C'est du côté de Lyon, si j'ai bonne mémoire. Mm. Et par contre, on supprime celui qui pourrait limiter la propagation de la maladie de Lyme.
Alors d'ailleurs, si vous voulez retrouver cette émission qui était consacrée donc aux tiques et à la maladie de Lyme, rendez-vous sur www.radioprévert.fr. Justement, du coup, ce petit renard, lui, la rage, ça lui fait rien ?
Si, il vient... Alors, un renard qui a la rage, il devient... Comme tout animal en général, ça attaque le cerveau. Donc, tant que ça se balade dans les nerfs, il n'y a pas de problème. Et le problème, c'est quand ça arrive au cerveau. Là, il y a des connexions qui se font. Et le renard qui, normalement, est peureux, a peur de l'homme. Il n'y a pas de problème. Un renard voit un homme, il se barre. Mais, une fois qu'il a été attaqué par la rage, lui, il devient... Il s'approche de l'homme. On en a vu des renards se balader dans des communes, même rentrer dans des salles de classe. Il devient zinzin. Donc, et puis après, bon, il se met à attaquer. Et la seule méthode pour être sûr qu'il n'avait pas la rage, c'est de le tuer, de garder la tête et d'envoyer la tête à un labo qui va étudier s'il était atteint de la rage ou pas.
Et le cas échéant, si justement cet individu est atteint de la rage, comment il peut le transmettre à l'homme ?
Mais, morsure ?
Morsure.
Ouais. Ah oui, et obligatoirement. Il faut qu'il...
C'est pas un contact
Non. Ça traverse le virus de la rage ne traverse pas la peau humaine. Le virus de la rage est faiblard et c'est un petit machin tout. Enfin, autant il fait des dégâts, mais vous le laissez à l'air libre, il va tenir quelques heures à sec et puis il disparaît, il meurt. Donc en fait, le seul façon, c'est de qu'il y ait une morsure avec une petite plaie et qu'il soit injecté dans le corps. Là, il se retrouve dans un milieu humide, avec il y a toujours un petit bout de nerf qui passe à côté, et la rage va rentrer dedans. Donc, elle va rentrer dans votre corps. Si c'est au bout de la main, la rage, on saura vraiment qu'on a la rage que quand ça attaque le cerveau. Donc, il faut que, s'il vous pique au bout du doigt, il vous mord le bout du doigt, il va falloir que ça remonte tout le bras, tout ça remonte jusqu'à la moelle épinière et ça remonte jusqu'au cerveau, pour qu'il ait commencé à avoir des...
Les
symptômes de la rage. En général, quand il y a des symptômes de la rage...
C'est trop tard.
Oui, voilà, il est un peu foutu, le monsieur ou la madame.
Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur...
Non, rien pour ma défense. Pour la défense du renard, j'aurais plein de choses à rajouter. Mais arrêtez de les massacrer, ça, Ça ne sert strictement à rien.
Merci Jean-Joseph Desmottiers pour nous avoir réalisé cette nouvelle chronique. Merci également à Florence qui nous a donné le sujet de cette émission. Vous pouvez vous aussi nous contacter et nous faire part des thématiques que vous souhaitez que nous abordions avec vous à l'antenne. Vous pouvez le faire par mail à l'adresse suivante rédaction@radioprévert.fr, par téléphone bien évidemment au 02 43 46 36 80 ou via notre page Facebook. À très bientôt Jean-Joseph Desmottiers, on se retrouve le mois prochain.
Oui, mais je vous dirai pas pourquoi. Allez, au mois prochain.